الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 17 من شهر ذي الحجة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس 29 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 11 octobre 2014. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entrer dans le 29e cours de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, les passages ou les chapitres dans la vie du messager. Et nous sommes toujours en train de parler de ce chapitre important dans la sirah, dans la biographie, qui est celui de Sulh al-Hudaybiyyah, le traité de l'Hudaybiyyah, qui a eu lieu, comme on l'a dit la dernière fois, en l'an 6 de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de se rendre à Médine dans le but d'accomplir une umrah, accompagné d'un nombre conséquent de compagnons, ils étaient à peu près 1400, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Lorsque les kuffars de Quraysh ont appris que les musulmans se dirigeaient vers la Mecque pour y accomplir une umrah, ils ont décidé de former un groupe pour s'opposer à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont réuni avec eux certaines des tribus avoisinantes de la ville de Mecca et ont formé un groupe à la tête duquel était Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qui à l'époque n'était pas encore musulman. Il était ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à arriver à un point, le prophète alayhi salatu wa salam a décidé de prendre un autre chemin afin de tromper Khalid ibn al-Walid radiyallahu an. Puis les musulmans se sont arrêtés à ce point d'eau qui s'appelle Hudaybiyyah, d'où le nom de cet endroit et de cette étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois arrêté à cet endroit, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des émissaires de Mecca, de Quraysh, qui essayaient de le dissuader de venir à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses sahaba radiyallahu anhum, leur expliquait qu'il n'était pas venu ni pour le combat et ni pour la guerre, alayhi salatu wa sallam. Et puis, ces émissaires n'ont cessé de faire les va-et-vient entre Quraysh et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au dernier émissaire qui était Suhail ibn Amr, envoyé par Quraysh. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu arriver, il a dit à ses compagnons, « قَدْ سَهُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ تَفَاءَلَ بِسْمِهِ » Il a fait preuve d'optimisme en utilisant le sens de son nom, car Suhail vient de Sahel, qui veut dire simple ou facile. Et quand il a vu Suhail arriver, il a dit à ses compagnons, votre situation va se faciliter. C'est-à-dire que la négociation avec lui sera plus facile. Et on a vu que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, walakin yu'jibuni al-fa'l, mais l'optimisme me plaît. Et les savants ont donné des exemples parmi lesquels, lorsqu'une personne est malade et qu'elle voit un homme qui passe devant elle, cet homme est interpellé et il s'appelle Salim. Et à la base, Salim, c'est celui qui est sain dans son corps, il est en bonne santé. Il peut dire, Inch'Allah, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal va guérir. C'est ça ce qu'on appelle al-fa'l. Il y a un chapitre dans le Kitab al-Tawhid qui traite de cela. Et donc, le prophète alayhi salatu wa salam s'est mis d'accord avec lui et il a contracté un traité où il s'y trouvait des clauses qu'il devait respecter, sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles le fait que les musulmans qui fuiraient la Mecque pour rejoindre les croyants de Médine devaient ou devraient être rendus aux kuffars de Mecca. Et en apparence, si, comme on l'a dit la dernière fois, on juge avec nos sentiments et nos passions, on va dire que c'est une chose qui est inacceptable. Et c'est l'agissement de beaucoup de musulmans aujourd'hui, qui n'agissent pas avec les textes, mais qui œuvrent selon ce que leurs passions, leurs envies, leur dictent. Et donc, il y avait aussi parmi ces clauses à respecter que si un musulman part de Médine pour se rendre à la Mecque et qu'il y est constitué captif par les koufars de Mecca, les musulmans n'ont pas le droit de le réclamer. Subhanallah, imaginez-vous un peu cette situation. Et d'autres clauses encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Certains des compagnons ont voulu comprendre pourquoi est-ce que on devait agir ainsi. Notamment Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a dit aux compagnons, ne sommes-nous pas nous les croyants et eux les mécréants, eux les associateurs? Si, a répondu Abu Bakr radiyallahu anhu, mais ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que vérité, il faut s'y soumettre. Et donc, il a éduqué la communauté radiyallahu anhu à se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'il va découler de ce traité un grand bienfait qui viendra aux musulmans, puisqu'en vérité, ça sera une préparation pour la conquête de Khaybar et la conquête de la Mecque et d'autres biens qu'Allah Azza wa Jalla a cités. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pendant cette négociation à la Mecque pour essayer de convaincre les gens de Quraysh qu'il fallait laisser les croyants venir car ils n'étaient pas venus ni pour combattre ni pour attaquer. Et c'est la partie que nous allons lire inshallah ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنهم أو أنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء معتمرا فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال فبايعوه تحت شجرة هناك وكانت سمرة وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا وإلا أبا سريحة حذيفة بن أسد قد فإنه شاهد الحديبية وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن وقيل إنه وقيل ابنه سنان ابن أبي سنان. ابن كثير رحمه الله تعالى va maintenant nous citer ce qui s'est passé suite à l'envoi de Uthman radiyallahu anhu en tant qu'annonciateur envers le peuple de Quraysh qui ne sont venus ni pour combattre ni pour attaquer. Ibn Kathir rahimahullah dit ce qui veut dire, avant la conclusion de cette trêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Qui est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? Qui est Uthman ibn Affan? Est-ce normal qu'il n'y a qu'une seule main qui se lève? هي عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. C'est le troisième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a comme autre particularité? Naam. Il était connu pour sa pudeur à un point où les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala ont éprouvé envers lui de la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et comme le disent certains savants, certaines personnes égarées n'ont pas éprouvé de la pudeur envers lui en le dénigrant ou en le critiquant. Comme Sayyid Qutb. Wallahu al-musta'an. Donc, le prophète a envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu an au Mekwa afin de les rassurer sur ses intentions, afin de leur dire: nous ne sommes pas venus pour combattre ni pour vous attaquer. Il n'était pas venu pour combattre qui que ce soit, mais pour accomplir une umrah. Compte tenu du respect dont jouissait Uthman, les polythéistes lui proposèrent d'accomplir le tawaf autour de la maison sacrée. Ils ont dit à Uthman: puisque tu es là. Uthman était issu d'une tribu respectée à Mecca. C'est pour ça que le prophète a décidé de l'envoyer lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé à la Mecque, les mécréants de Mecca lui ont dit: puisque tu es ici, va accomplir le tawaf que tu es venu faire. Mais Uthman, radiyallahu anhu, en respect pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ce que nous a dit Ibn Kathir, rahimahullah. Mais s'y refusant, il leur répondit: il n'est pas question que j'effectue le tawaf avant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans l'histoire de l'Hudaybiyah et de tout ce qui s'est passé en détail, et vous pouvez y revenir, inshallah, il est dit que lorsque Uthman a tardé à revenir, certains des compagnons ont dit: qad tafa Uthman. Uthman a accompli le tawaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lam yatuf. Uthman n'a pas fait le tawaf, la circumambulation. Et les compagnons lui ont dit: mais comment dis-tu cela au messager d'Allah? Wa ma yudrik. Comment est-ce que tu le sais? Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit: dhalika dhanni bihi. C'est la pensée que j'ai de lui. Il connaît Uthman. Il connaît le respect que Uthman a pour la sunna et pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En se basant sur cette connaissance qu'il a de lui, il a dit: je sais qu'il n'a pas accompli le tawaf. Quand Uthman est revenu par la suite, les gens lui ont informé Uthman radiyallahu anhu de ce qui a été dit à son encontre. Et Uthman radiyallahu anhu leur a dit: bi'sa ma dhanantum. Ô combien est mauvaise la suspicion que vous avez eue, ou bien la pensée que vous avez eue de moi. Jamais je n'accomplirai cela avant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Uthman ne regagna pas le camp des musulmans immédiatement, si bien que se propagea la rumeur selon laquelle il avait été tué, ce qui provoqua la colère du messager d'Allah. Alayhi salat wa salam. Quand Uthman a tardé à rentrer, radiyallahu an, une rumeur a pris naissance et elle s'est propagée très rapidement dans les rangs des musulmans. Cette rumeur disait que Uthman a été tué, radiyallahu an. Cette rumeur est tombée dans l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas pu supporter une telle information. Nous l'avons envoyé pacifiquement. Il était habillé, il portait la tenue d'Ihram, sacralisation. Il n'avait ni armes et ni envie de combattre qui que ce soit. Et malgré tout cela, ils l'ont tué, radiyallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement appelé tous ses compagnons et a fait avec eux ce qu'on appelle et ce qui va être très connu dans sa vie, Bay'atul Ridwan, l'allégeance qui a suscité la satisfaction d'Allah, ou qui a causé la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans le classement des meilleurs sahaba, radiyallahu anhum, il y a ashab bay'at al-ridwan, al-muhajirin, ceux qui ont quitté la Mecque vers Mecca, ce sont donc les premiers musulmans, l'ansar, ceux qui les ont accueillis, ahlu badr, les gens de la bataille de Badr, et enfin, ashab bay'at al-ridwan, et d'autres aussi. Et donc, ils ont une grande place chez Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux deux qu'Allah azza wa jalla a parlé, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Et on va le voir. Ibn Kathir a dit, il appela donc ses compagnons à lui faire allégeance en s'engageant à combattre à ses côtés. Le prophète a appelé les sahaba et leur a dit, il est dit que Uthman a été tué, je dois prendre dès maintenant votre engagement que vous allez venir pour les combattre et venger Uthman. L'allégeance eut lieu sous un arbre situé à Al-Hudaybiyya, un samoura. Samoura, c'est le nom d'une catégorie d'arbres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut donc l'allégeance de tous les musulmans qui l'avaient accompagné à Al-Hudaybiyya. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ils étaient à peu près 1400. Et lorsque le prophète se tenait debout à côté de cet arbre, car cette allégeance a eu lieu au pied d'un arbre, il y avait une branche de cet arbre qui tombait et qui gênait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu essayait de pousser autant que possible cette branche de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tenait élevée afin qu'elle ne lui nuise pas. Et les compagnons sont venus les uns après les autres pour serrer la main au prophète alayhi salatu wassalam en signe d'allégeance et de promesse qu'ils vont lui obéir, le suivre et combattre à ses côtés sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'eux qu'Allah azza wa jalla a parlé dans le verset que vous allez voir inshallah ta'ala. Le prophète reçut donc l'allégeance sallallahu alayhi wa sallam de tous les musulmans qui l'avaient accompagné à Al-Hudaybiyya, à l'exception de Al-Judd ibn Qais, qui marque son hypocrisie et de sa traîtrise. Marqué de son hypocrisie et de sa traîtrise, c'était dissimulé derrière son chameau. On a vu à plusieurs reprises que souvent dans les expéditions militaires, il y avait des hypocrites qui montraient en apparence la participation avec les compagnons, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, mais qui en vérité étaient mécréants. Et ils attendaient la première occasion qui se présentait à eux pour quitter les rangs des musulmans et rentrer. Parmi lesquels cet homme-là. Quant à Abu Sariha, Hudhayfa ibn Usayd, qui était bien présent à Al-Hudaybiyya, certains affirment qu'il fit allégeance alors que d'autres prétendent le contraire. Le premier musulman à prêter serment d'allégeance fut, selon certains, Abu Sinan Wahab ibn Mihsan, le frère de Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan, radiyallahu anhu, est connu pour une chose dans un hadith. Est-ce que l'un d'entre vous peut le dire? Vous suivez Kitab al-Tawhid? Il y a un passage où il est dit que il existe des gens de la communauté qui entreront au paradis sans être jugés ni châtiés. Naam. Exactement, c'est lui. Ukasha ibn Mihsan, c'est lui qui s'est levé après avoir entendu cette parole pour dire « Ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'alani minhum » Et le prophète, il a dit au messager d'Allah « Invoque Allah en ma faveur qu'il fasse que je fais partie ou que je rejoigne ces gens-là. » Le prophète lui a dit « Anta minhum » Un autre s'est levé et lui a demandé la même chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Sabaqaka biha Ukasha » Ukasha t'a devancé. Et ça, c'est une hikmah. Pour ne pas lui dire qu'il peut-être ne fait pas partie de ces gens-là, ce qui pourra peut-être le toucher, il lui a dit, Ukasha, t'as devancé. Et donc, c'est son frère, radiyallahu anhu, qui était présent et dont on parle ici. Le frère d'Ukasha ibn Mihsan, ou selon d'autres, son fils, Sinan. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit « وَبَايَعَ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك كما رواه مسلم عنه. ووضع صلى الله عليه وسلم يده عن نفسه الكريمة ثم قال: وهذه عن عثمان. فكان ذلك أجل من شهود تلك البيعة، وأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. الله أكبر. فهذه هي بيعة الرضوان. ابن كثير dit ce qui veut dire: سلمة بن الأكوع، comme le rapporte Muslim رضي الله عنه ورحمه الله، fit quant à lui allégeance par 3 fois, obéissant ainsi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte que quand Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu, qui était connu pour, on l'a dit au dernier cours et même à celui d'avant, il courait très vite, plus vite que les chevaux, et c'est lui qui a rattrapé quelqu'un parmi les kuffars qui a pris la fuite. Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu a prêté allégeance 3 fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète qui lui a demandé. La première fois, il s'est présenté à lui et lui a serré la main. Ensuite, une foule de gens est venue prêter allégeance au prophète alayhi salatu wa salam. Au milieu, le prophète l'a appelé et lui a dit: ta'al bayi', viens et prête allégeance. Puis à la fin, le prophète l'a réappelé et lui a demandé encore une fois de prêter allégeance, radiyallahu anhu. Et sans aucun doute, ça montre le mérite que ce compagnon a et combien il est aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa l'une de ses mains sur l'autre en disant: et ceci est pour Uthman. Pourquoi? Uthman n'était pas là, mais il connaît Uthman. Il sait que si Uthman était présent, il n'aurait pas hésité à prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc pris une main et avec laquelle il a serré sa deuxième main sallallahu alayhi wa sallam, comme pour dire: Uthman n'est pas là, mais à travers ce geste, ce symbole, c'est Uthman qui me prête allégeance. Or, par ce geste, Uthman radiyallahu anhu fut plus honoré que s'il avait lui-même participé à cette allégeance, à propos de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala révéla ces versets. Ça, c'est la traduction du verset: Allah a très certainement agréé les croyants quand ils te prêtèrent serment d'allégeance sous l'arbre. Et c'est donc pour cela qu'on appelle cette allégeance bay'at al-ridwan ou bay'at al-shajara, l'allégeance qui a causé la satisfaction d'Allah, ou bien l'allégeance de l'arbre, c'est-à-dire l'allégeance qui a eu lieu sous l'arbre. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فدخل على أم سلمة هي زوجته صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك فقالت أخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله فخرج ففعل ذلك فبادر الناس إلى موافقته فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث ابن ربعي فإنهما قصرا ذكره السهيلي في روض الأنف. ابن كثير رحمه الله تعالى va nous parler de ce qui s'est passé une fois que le prophète alayhi salatu wassalam a achevé le traité ou a conclu avec eux ce pacte et s'est engagé à respecter ses clauses. Il fallait qu'il sorte de l'état de sacralisation car il était venu pour accomplir une umra. Et celui qui va accomplir une umra entre en ihram. Il porte les vêtements de sacralisation, il dit « labbaik Allahumma umra » et il ne cesse de répéter la formule dite « At-Talbiya » pour se diriger vers Mecca. Pendant cet état qui est appelé sacralisation, ihram, des choses sont interdites qui sont citées dans les livres dans ce sujet. Donc, le prophète alayhi salatu wasalam devait quitter cet état et en sortir. Et pour ce faire, il s'est arrêté et a demandé à ses compagnons de quitter l'ihram et d'en sortir. Et regardez la réaction des compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de ceux qui prêtèrent serment d'allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Cette allégeance fut appelée l'allégeance d'Ar-Ridwan. Après avoir conclu la trêve avec les polythéistes, comme nous l'avons vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de se désacraliser. Il fallait qu'ils se coupent les cheveux, et avec cet acte, ils seraient considérés comme désacralisés. Mais ils ne purent s'y résoudre et marquèrent un temps d'arrêt. Donc ils n'ont pas obéi directement. Certains pourraient dire ils ont désobéi. Non, ils n'ont pas désobéi. Comme le dit Cheikh Abdel Razak, hafidhahullah, ils n'ont pas désobéi. Mais en vérité, la raison pour laquelle ils n'ont pas répondu rapidement à son appel, c'est qu'ils espéraient tellement que cet ordre soit abrogé et donc annulé. Ils voulaient accomplir cette umrah pour laquelle ils étaient arrivés jusqu'ici, le Hudaybiyah. Ils ne voulaient pas désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam, mais ils voulaient aller avec lui accomplir la umrah. Ils espéraient que Allah tabaraka wa ta'ala légifère la poursuite de cet acte. C'est pour ça qu'ils ont mis du temps. Et dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: rasez vos cheveux et sacrifiez vos bêtes. Et eux n'ont pas répondu. Le prophète alayhi salatu wasalam a été touché par une tristesse du fait que les compagnons n'ont pas répondu immédiatement à son appel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui demander conseil à son épouse. Il dit: mais ils ne purent s'y résoudre et marquèrent un temps d'arrêt dans l'espoir que ce commandement soit abrogé. Irrité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla trouver Umm Salama, son épouse, en se plaignant de l'attitude de ses compagnons. Il est rentré chez lui et a dit à son épouse que ses compagnons ne lui ont pas obéi, ce n'est pas de leur habitude, c'est une chose étonnante. Et sa femme lui a dit, ce que nous dit Ibn Kathir, rahimahullah, elle lui recommanda d'agir ainsi: sors, ô messager d'Allah, puis immole ton sacrifice et fais-toi raser la tête, les gens t'imiteront. Le prophète alayhi salatu wasalam est donc sorti de chez son épouse Umm Salama et il s'est mis devant ses compagnons, il a sacrifié sa bête et rasé sa tête. Et quand les compagnons l'ont vu agir, immédiatement ils l'ont suivi sallallahu alayhi wa sallam. Il sortit et suivit les recommandations d'Umm Salama, rapidement imité par les musulmans. Tous se rasèrent la tête, à l'exception de Uthman ibn Affan et Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i, qui se contentèrent de se faire couper les cheveux, c'est-à-dire raccourcir les cheveux. Comme l'indique Al-Suhayli dans Rawd al-Unuf. Suhayli, c'est un imam qui a écrit ce livre Rawd al-Unuf. C'est un livre dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les compagnons ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وكان بعضهم يقتل وكاد بعضهم يقتل بعضا غما لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا أي كما أحب المشركون وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما كنا نعده فتح الحديبية وصدق رضي الله عنه فإن الله سبحانه جعل هذه السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا، فكانت مدة إقامتهم بالحديبية نحو من 20 ليلة. ابن كثير رحمه الله تعالى conclut ce chapitre en disant: ce jour-là, les musulmans, considérant que les polythéistes leur avaient imposé toutes leurs conditions, faillirent s'entretuer de dépit. Ils étaient tellement habités par la tristesse, par le désarroi, radiallahu anhum, de se voir dans l'obligation de respecter toutes ces conditions que les kuffars leur ont imposées, que, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ils faillirent s'entretuer. Bien sûr, ils n'allaient pas le faire, mais c'est pour montrer combien était grande la préoccupation qui les touchait, radiallahu anhum. Et ce, compte tenu de leur bravoure et de leur désir de faire triompher l'islam. Mais Allah, Azza wa Jal, connaissait mieux qu'eux l'intérêt et les conséquences d'une telle trêve. Car quand Allah, tabaraka wa ta'ala, décrète quelque chose, même si en apparence, le musulman voit son shaitan ou voit ses sentiments ou ses ressentis lui dire qu'il ne faut pas agir, il doit agir. Car Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui l'a créé, lui et ses sentiments. Et Allah tabaraka wa ta'ala connaît le bien pour lui-même mieux qu'il ne le connaît pour sa propre personne. Et quand il décide une chose, subhanahu wa ta'ala, il faut s'y soumettre. Même si en apparence, cette chose donne l'impression d'être mauvaise. Elle n'est que bonne si elle vient d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, sur la route de son retour à Médine, Allah tabaraka wa ta'ala fit descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate Al-Fath, la victoire. Regardez le khair maintenant qui arrive. Après la soumission, après la patience, après l'endurance, malgré, comme on l'a dit plusieurs fois, ce qui apparaît comme mal pour les musulmans, mais du fait qu'ils se sont soumis, sur le retour de l'Hudaybiya à Médine, ils ont quitté l'Ihram, ils se sont rasés les cheveux, ont sacrifié leurs bêtes, se sont soumis aux conditions imposées par les kuffars. Ils ont rendu des sahaba qui ont fui la Mecque et qui sont venus à Médine, comme Abu Jandal, comme on l'a vu la dernière fois. Il est venu menotté, enchaîné, radiyallahu anhu. Il est arrivé à Médine, quand il est arrivé, il a vu les compagnons al-Hudaybiya, il s'est jeté par terre devant eux et leur a dit: sauvez-moi. Et les kuffars sont venus derrière eux, et Suhayl ibn Amr, qui avait contracté le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: hadha awwalu man uqadhika alayhi an tarudda. Voici le premier que je te demande de me rendre, que je te demande de m'engager à rendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: retourne avec eux. Imaginez-vous, subhanallah, en apparence, qu'est-ce que va dire un ignorant? Il ne va dire que du mal à cause de son ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y a-t-il quelqu'un qui veut le bien pour sa umma, pour ses frères dans la foi, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est négative. Sinon, la personne qui dit ça a mécru, wal'iyadhu billah. Le prophète dit à ce compagnon: retourne avec eux, avec les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car quand Allah légifère quelque chose, il faut suivre, un bien viendra derrière. Donc, toutes ces personnes-là, des passions ou de l'innovation, qui prennent à la dérision les gens de la sunna, quand un malheur touche la umma et que les ulama de la sunna disent à la umma comment il faut agir, ils se moquent d'eux. Et ils disent que ces gens-là ne veulent pas de bien pour la communauté, ils sont arriérés, ils ont fait marche arrière, ou bien ils se sont arrêtés dans leur façon de réfléchir, etc. En vérité, c'est eux qui ont tort. Car si on suit leur raisonnement, que dire alors de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit à Abu Jandal de retourner avec les kuffars? Donc, il faut se soumettre à l'ordre d'Allah. Et la baraka tout entière réside dans la sunnah, et sont suivis, walhamdulillah. Et c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala que l'on peut parler comme cela et essayer de s'accrocher à cette croyance. Dans cette époque où les troubles et les ambiguïtés sont tellement nombreuses qu'on ne peut les dénombrer. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit aussi sur la route de son retour à Médine, Allah tabaraka wa ta'ala fit descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate Al-Fath en entier, sourate 48 du Coran. Lisez-la, inshallah. Au sujet de ces événements, par quoi est-ce qu'Allah commence cette sourate? Il dit Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. De quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Hein? De quoi? De? Non. De quelle victoire éclatante est-ce qu'il parle? Fath Mecca, la conquête de la Mecque. C'est-à-dire, tu t'es soumis, vous les compagnons, vous vous êtes soumis au prophète, la Mecque va revenir dans vos mains. Et dans la sourate d'Al-Fath, Allah tabaraka wa ta'ala va parler d'un grand butin, une ghanima, qui va être gagné par les musulmans, qui sera celui de Khaybar. Et après Khaybar, vous allez voir que les musulmans seront tellement riches qu'ils ne sauront même pas quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont soumis, pardon. Ils ont suivi les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a donné la dunya. Alors que les gens ne suivent pas les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne leur donne ni le din, ni la dunya. Ou bien il leur donne la dunya sans y mettre une baraka. Et elle sera une cause de malheur pour eux. Wal'iyadhu billah. Et quand Allah Azza wa Jalla a dit, comme l'a dit Cheikh Abd al-Razzaq, Inna fatahna laka fathan mubina, c'est-à-dire, nous t'avons accordé une victoire éclatante, les sahaba ont dit, Hadha laka ya Rasulallah, wa man ladhi lana, ceci est pour toi, ô messager d'Allah. Mais qu'est-ce qui est pour nous? Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les suites des versets où il dit Wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha. Allah vous a promis un très grand butin que vous prendrez bientôt. Et donc, cette sourate a été révélée sur le retour de l'Hudaybiyah vers Médine. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit vous pensez que cette victoire Al-Fath est la conquête de la Mecque alors que nous considérions qu'il s'agissait de la victoire qui constitua la trêve conclue à l'Hudaybiyah, c'est-à-dire que les compagnons, car comme on a vu la dernière fois pendant le traité de l'Hudaybiyah, ils se sont mis d'accord pour ne plus combattre pendant 10 ans. Et les compagnons, quand ils ont vu cette clause, ils ont éprouvé une très grande joie. Pourquoi ? Car pendant ces 10 ans-là, ils savaient qu'ils pourraient se préparer pour la grande conquête qui est celle de la Mecque. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Car les koufars de Quraysh n'avaient plus le droit de combattre les musulmans et les musulmans ne devaient pas combattre les koufars de Quraysh. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que le prophète a fait ? Il est parti attaquer les Yahoud de Khaybar, les Juifs de Khaybar. Il s'est enrichi et il est parti attaquer certaines tribus qui ne faisaient pas partie de Quraysh. Donc, en termes d'armes, de biens et de moyens, il s'est enrichi. Et aussi, le nombre des musulmans a grandi et ils étaient prêts pour attaquer plus tard la Mecque. Ibn Kathir a dit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit vrai. Car Allah azza wa jal fit de cette trêve la cause de la conquête de la Mecque. Mais nous y reviendrons par la suite si Allah le veut. D'ailleurs, il compensa rapidement les musulmans pour la conquête de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera resté à l'Hudaybiyah près de 20 jours. C'est ainsi que l'imam Ibn Kathir a conclu ce chapitre, celui du traité de l'Hudaybiyah. والحمد لله رب العالمين قال رحمه الله فصل ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة فخرج في آخره إلى خيبر ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله أن فتح خيبر كان في سنة 6 والجمهور على أنها في سنة 7 وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة 6 بلا شك وذلك بناء على اصطلاحه وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة. Ibn Kathir rahimahullah va maintenant nous parler de l'expédition de Khaybar et nous dit: de retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y demeura jusqu'au mois de Muharram de la 7e année de l'Hégire. Tel est l'avis de la majorité des savants de l'islam. Cheikh Abdelrazzaq al-Abbad hafizahullah ta'ala a dit: c'est cet avis qui paraît le plus probable. À la fin de ce mois, il marcha sur Khaybar. Donc, on nous parle ici du mois de Muharram de l'an 7 de Al-Hijra. Et l'expédition de l'Hudaybiyah a eu lieu en l'an 6 de la Hijra vers la fin de l'année, le mois de Dhul-Qi'dah, ce qui veut dire 2 mois après. Donc le prophète est rentré de l'Hudaybiyah à Médine. Il y est resté près de 2 mois et il a ordonné à ses compagnons de se diriger vers Khaybar, où se trouvaient les Juifs, afin de les attaquer et prendre leur butin. Ibn Kathir a dit: à la fin de ce mois, il marcha sur Khaybar. En revanche, il est rapporté selon Anas ibn Malik que la conquête de Khaybar eut lieu en l'an 6 de l'Hégire. Quant à Ibn Hazm, rahimahullah, il affirme sans l'ombre d'un doute que cette conquête se déroula en l'an 6, et ce, compte tenu du calendrier qu'il s'est fixé. En effet, il considère que le calendrier égyrien débute au mois de Rabi' al-Awwal, mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine. C'est-à-dire qu'Ibn Hazm, rahimahullah, n'a pas eu la même méthode de calcul des mois lunaires que la majorité des savants qui ont dit l'année lunaire débute au mois de Muharram et s'achève à Dhul-Hijjah. Lui a dit: non, l'année lunaire débute au mois de Rabi' al-Awwal, celui au cours duquel le prophète est arrivé à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend en considération son calcul que l'année commence au mois de Rabi' al-Awwal, forcément on dira que le mois de Muharram était dans la fin de l'année 6 et non pas dans le début de l'an 7. C'est pour ça qu'Ibn Hazm rahimahullah affirme, et pour lui il n'y a aucun doute sur cela, que cette expédition a eu lieu en l'an, vous suivez, en l'an 6. Naam. Mais la majorité des savants retiennent le contraire et disent, et c'est ce qui est connu d'ailleurs, que le calendrier commence au mois de Muharram et se termine au mois de Dhul-Hijjah, celui au cours duquel je vous parle à l'instant même. Toutefois, son avis ne doit pas être pris en compte, c'est Ibn Kathir qui parle, car la majorité des savants de l'islam font débuter le calendrier égyrien au mois de Muharram de cette même année. Wa kana awwala man arraha bidhalika Ya'la ibn Umayyah bil Yaman, kama rawahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal anhu bi isnad sahih ilayhi. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في سنة 16 أو 10 كما بسط ذلك في موضع آخر. Et comme Ibn Kathir rahimahullah est en train de parler des mois lunaires, il amène cette faïda, ce point à retenir, où il dit: le premier à avoir fait débuter le calendrier égyrien à cette date, c'est-à-dire Muharram, rapporte l'imam Ahmad à travers une chaîne d'authentique fut Ya'la ibn Umayyah au Yémen. Il est dit que c'est lui qui a commencé à compter à partir de ce mois le calendrier lunaire. Mais d'autres savants affirment autre chose. D'autres affirment qu'il s'agit de Umar ibn Khattab radiyallahu an, et ce en l'an 16 de l'Hégire, comme cela est décrit en détail par ailleurs. فسار صلى الله عليه وسلم إليها واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين وكان جملة من حضر الحديبية فقط وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marcha donc sur Khaybar non sans avoir nommé Numayla ibn Abdullah al-Laythi à Médine pour le remplacer à la tête des musulmans. Comme à son habitude, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Médine pour une expédition, il désigne quelqu'un qui s'occupe de diriger les musulmans durant son absence. Ibn al-Qayyim rahimahullah, ici Ibn Kathir nous dit que cet homme était Numayla ibn Abdullah al-Laythi. Ibn al-Qayyim nous dit que c'était plutôt Siba' ibn Urfutah radiyallahu anhu et que c'est ce qui est connu. Wallahu ta'ala a'lam. Arrivé à Khaybar, il fit le siège de leur forteresse qu'Allah lui permit de conquérir l'une après l'autre. Les habitants de Khaybar, les juifs, avaient des forteresses où ils se réfugiaient. Et ils donnaient des noms à leur forteresse en fonction de la protection que celle-ci pouvait apporter à celui qui s'y réfugiait. Et celle qui était connue comme étant la plus protectrice était Hisn Marhab. Et Marhab, c'est un homme à la base, c'est un juif. Et dans sa forteresse, les gens étaient, en apparence en tout cas, très bien protégés. Et c'est la dernière qui a été ouverte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a pénétré le village de Khaybar, l'imam muslim nous rapporte que la première chose qu'il a dit, Allahu Akbar, Kharibat Khaybar. Allah est plus grand que quiconque, Khaybar est détruit. C'est-à-dire, ça y est, nous avons pénétré ce village qui va être voué à la destruction. Puis il dit, Inna idha nazalna fi sahati qawmin fasa'a sabahul mundharin. Nous autres les musulmans, lorsque l'on descend et on fait halte sur la terre d'un peuple, comment traduire fasa'a sabahul mundharin? Barakallah fait, quelle mauvaise matinée pour ce peuple averti. C'est-à-dire que le prophète arrive et lorsqu'il entre dans ce village, forcément Allah tabaraka wa ta'ala bi'idhnillah va lui donner la victoire. Et c'est donc ce qui s'est passé. Ibn Kathir a dit, il répartit la moitié du butin entre les musulmans. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le butin. Mais avant d'entrer dans la question du butin, sachez que lorsqu'ils sont arrivés devant la forteresse de Marhab, Marhab est sorti de celle-ci et a demandé al-biraz, l'affrontement. Et Amir, radiallahu anhu, un des compagnons, est venu avec son épée qui n'était pas une épée longue ou grande. Et il a donc affronté cet homme-là, Marhab, le juif. Il y a eu un combat qui s'est entamé entre eux. Et Amir radiallahu anhu a asséné un coup d'épée à Marhab. Et dans le combat, sa propre épée est revenue sur lui et il est mort de son coup. Du retour de son coup, il est mort. Radiallahu anhu. Et donc, cette question a posé problème aux compagnons parce qu'ils se sont dit que Amir s'est tué et que donc ses actes sont annulés. Pourquoi ? Car il a causé sa propre mort et cela est formellement interdit dans l'islam. Et certains ont voulu ne pas prier sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins invoquer Allah en sa faveur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bal huwa jahidun mujahid ». Au contraire, c'est quelqu'un qui a fourni des efforts, un brave combattant. Radiyallahu anhu. Car il n'a pas il n'a pas fait volontairement, il n'a pas causé sa mort volontairement. Au contraire, lui, il ne voulait que tuer celui qui était devant lui, l'ennemi. Mais il a causé sa mort. Cheikh Abd al-Razzaq, à ce passage, dit « وَمِنَ الْمُوَفَقَاتِ الْعَجِيبَ » Et parmi les coïncidences très étonnantes, c'est que c'est exactement dans cette bataille, la bataille de Khaybar, qu'il y avait un homme qui était brave dans le combat, et les compagnons l'admiraient. Et ils ont dit « Oh, combien est brave cet homme ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « هو في النار » Cet homme est dans le feu. Un des compagnons a été pris par l'étonnement et il a décidé de le suivre. Chose qu'il a faite. Il l'a suivi et il l'a regardé dans les rangs. Effectivement, il combattait de façon très courageuse. Mais un moment est arrivé où il a été blessé par l'ennemi. Il ne supportait plus ses blessures. Il a posé son épée et a rentré son corps dans l'épée et il s'est suicidé. L'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, tu as dit vrai au messager d'Allah. Tu as dit vrai au messager d'Allah, il s'est suicidé. Cheikh Abd al-Razzaq profite de cet instant pour dire que cela nous montre que chez les compagnons, il est enraciné la connaissance qu'il est formellement interdit de se causer la mort volontairement. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas, certains ne voulaient pas invoquer Allah Azza wa Jal pour Amir radiallahu anhu, mais il ne l'a pas fait volontairement. Donc ils savent qu'on n'a pas le droit de se causer la mort. Il dit, que dire alors de ceux qui se causent la mort au jour d'aujourd'hui, les khawarij, ceux qui portent les ceintures explosives ou les voitures, les véhicules bourrés d'explosifs, dans le but de faire des dégâts ou de tuer des victimes, des gens innocents qui n'ont rien à voir. Que dire alors si s'ajoute à cela le fait que les victimes sont des croyants, wal'iyadhu billah. Cela est formellement interdit. Et beaucoup de gens pensent suivre les sahaba en agissant ainsi, alors qu'en vérité, vous venez de voir qu'ils n'ont rien à voir avec leur guidé, radiyallahu ta'ala anhum. Et donc, Amir est décédé. Puis, Marhab a demandé un autre affrontement. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui lui a tranché la gorge avec son épée. Et d'ailleurs au début de la bataille de Khaybar, lorsque les compagnons ont fait halte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit le soir, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi wa qad fataha Khaybar ala yadayhi. Il dit, je vais donner l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé d'Allah et son messager. Et Allah apportera la conquête par sa cause. Toute la nuit, les compagnons ont discuté. Toute la nuit, les compagnons ont discuté. Qui est cet homme? Certains ont dit, la'allahum alladhina aslamu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que ces gens-là, que celui-là fasse partie des gens qui sont venus se convertir avec le prophète, alayhi salam. Il se peut que, et ainsi de suite. Le hadith, vous l'avez vu dans Kitab al-Tawhid. Et donc, à la fin, le lendemain matin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Aina Ali ibn Abi Talib ?»« Où est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu ?» Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit, ما أحببت الرئاسة إلا في ذلك اليوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه a dit, je n'ai jamais aimé le pouvoir ou bien être gouverneur à l'exception de ce jour-là. C'est-à-dire la seule raison qui avait poussé ce jour-là Omar à devenir le gouverneur pour cette expédition, c'est le fait que cet homme qui va être le gouverneur de cette expédition a été décrit comme aimant Allah et son messager et étant aimé d'Allah et de son messager. Ils ne veulent pas la dunya. Ils ne veulent rien de ce bas monde. Ils veulent être aimés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, Omar, tous les compagnons ont discuté entre eux. Au bon matin, ils attendent que le prophète vienne et l'appelle. Chacun en espérant que ce soit lui qui va être appelé. Le prophète dit, « Aina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu » Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu se plaignait d'une maladie qui avait touché ses yeux, à un point il ne pouvait même plus voir le chemin quand il marchait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-le venir. Ali est venu à lui, radiyallahu anhu, le prophète lui a craché dans ses yeux et il a retrouvé une vue parfaite, radiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dit, il se réserva l'autre moitié qu'il employa pour ses besoins personnels et dans l'intérêt des musulmans. L'autre moitié, c'est-à-dire la moitié du butin. À leur demande, il permit aux juifs de Khaybar de continuer à entretenir ses palmeraies et ses champs de céréales. Naam. واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها أي من أرض خيبر من ثمر أو زرع وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. Donc Ibn Kathir rahimahullah continue et dit, il se réserva l'autre moitié qu'il employa pour ses besoins personnels et dans l'intérêt des musulmans. À leur demande, il permit aux juifs de Khaybar de continuer à entretenir ses palmeraies et ses champs de céréales en échange de la moitié de leur récolte. C'est-à-dire qu'à la base, les Juifs devaient quitter Khaybar. Ce qu'on appelle Al-Jala, c'est le fait de les expulser de leurs habitations, de leurs villages. Et les Juifs se sont mis d'accord avec lui et lui ont dit, on te propose en échange de rester chez nous à Khaybar, de cultiver pour toi ces palmeraies. Et les Juifs sont devenus des travailleurs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont mis à cultiver pour lui les palmeraies et ses champs de céréales en échange de la moitié de leur récolte. Et ils prendraient la moitié. En outre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les femmes du butin, choisira Safiya bint Huyay, la fille de Huyay ibn Akhtab, qui se convertira à l'islam. Qui est Huyay ibn Akhtab? Huyay ibn Akhtab est un juif de Banu Nadir, la tribu qui a été chassée aussi par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il voulait le tuer. Alors qu'ils avaient un pacte avec lui. Ensuite, Banu Nadir ont été, les gens de Banu Nadir ont été voir, et donc parmi eux, Huyay ibn Akhtab a été voir le chef de Banu Qurayza dans la bataille de la tranchée pour le convaincre de rompre son pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont suivi. Et donc il a été exécuté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vengeance de Banu Qurayza. Sa fille, Safiya bint Huyay était à Khaybar. Elle faisait partie du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle était esclave et captive, l'a libérée et ensuite il l'a épousée et elle est devenue la mère des croyantes, Safiya radiyallahu ta'ala anha. On s'arrête ici inshallah ta'ala et on reprend samedi prochain dans la suite. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.